BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce club BFM Crypto. Un débat aujourd'hui pour cette émission, il y en aura à peu près un par mois. Désormais, on va s'interroger aujourd'hui sur l'avenir de notre monnaie. Il faut dire qu'une fois encore, les États-Unis ne nous ont pas attendus. Il en va donc de notre souveraineté monétaire. Plusieurs visions de la finance en construction et sur ce plateau, le projet d'euro numérique d'une part, le développement des stablecoins d'autre part. On en parle avec mes invités. Aujourd'hui, Jean-Marc Stenger, directeur général de la Société Générale Forge. Bonjour Jean-Marc, ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci. En face de vous, Éric Lacourège, directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. Ravi de vous avoir également sur le plateau de BFM Crypto. Et Hubert de Vauplane, partenaire chez Morgan Lewis, avec lequel on discute de ce débat depuis de nombreuses semaines. Bonjour Hubert.
Bonjour Sandra.
Ravi de vous avoir sur le plateau. Évidemment, chacun d'entre vous intervient quand il le veut dans cette émission. 25 minutes pour y voir plus clair. BFM Crypto, le débat, c'est parti. Commençons, on est sur BFM Crypto par vous Jean-Marc Stenger, Société Générale Forge. Vous êtes en quelque sorte la filiale crypto de la Société Générale, créateur du stablecoin euro EURCV, on dit EURCV, EURCV.
Convertible.
Créé en 2023.
Créé en 2023, après plusieurs années de développement sur d'autres sujets, notamment des titres financiers au format numérique, tokenisés, et un développement naturel pour nous, évidemment, c'était d'arriver également vers la capacité d'émettre du cash numérique, donc sous forme de stablecoin, oui. On en reparlera.
Oui, vous avez aussi créé celui qui est adossé au dollar en juillet dernier. Vous êtes pionnier en réalité dans notre pays sur la création de ces stablecoins. Rappelez-nous, pour bien commencer, à quoi ça sert un stablecoin et pourquoi vous avez pris ce chemin-là?
Stablecoin, c'est un nom très compliqué pour dire quelque chose de tout simple. Hein. C'est du cash numérique, c'est du cash digital déployé sur des infrastructures de blockchain, simplement pour rendre les mouvements, les virements plus rapides, plus efficaces, moins chers. Évidemment, dans un monde qui devient de plus en plus numérique, avec des écosystèmes crypto qui se développent beaucoup, c'est une attente de beaucoup de clients, qu'ils soient retail, particuliers, mais également institutionnels ou entreprises.
Vous êtes en train de créer aussi un vaste système de finance décentralisée, la finance via la blockchain. En quoi c'est important aujourd'hui, à notre époque, de développer ce type d'outils?
Oui, alors ça fait déjà 5 ans que la Société Générale investit dans ces technologies. La filiale dédiée Société Générale Forge existe depuis 2020. C'est vrai qu'on a un rôle pionnier, pas que en France, au niveau mondial également. L'Europe a été également assez pionnière avec un cadre réglementaire MiCA qui est arrivé en application avant d'autres zones géographiques, en particulier les États-Unis, et qui nous a donné justement l'opportunité de développer et de proposer des offres commerciales à nos clients, encore une fois, dans les écosystèmes de crypto-monnaies, au travers du stablecoin notamment, mais également pour des acteurs plus institutionnels ou entreprises qui, de façon de plus en plus importante, se tournent vers ces moyens de paiement innovants pour simplement faciliter leurs échanges.
On comprend les avantages, la rapidité, la fluidité des paiements, la sécurité, la stabilité, l'interopérabilité, la modernisation aussi du système financier. Est-ce que les gens, pour autant, comprennent bien ce que c'est? Est-ce que ça peut apporter à ce système?
Alors, je dirais qu'il y a... Déjà, aujourd'hui, vous avez à peu près 15% de la population française qui détient des cryptos. Donc, vous avez déjà 15% de la population qui utilise des stablecoins et les stablecoins d'SG Forge de plus en plus. Nous, aujourd'hui, on fait à peu près 100 à 150 millions d'euros de transactions par jour. Donc, c'est déjà un quotidien pour beaucoup de clients. Les entreprises y arrivent un peu plus tardivement. Il y a encore un petit peu d'éducation. Encore une fois, la réglementation MiCA a simplement une année. Donc, on est encore au début. Mais effectivement, la dynamique est très forte. Ouais.
En quoi c'est un outil indispensable pour notre souveraineté monétaire? Quel est le projet pour l'Europe via ces stablecoins?
Je crois que dans toutes les industries, on fait à peu près le même constat. Encore une fois, on va vers plus de digitalisation, plus de plateformisation des économies. Oui. Les échanges sont plus rapides. Les échanges sont également plus point à point, plus granulaires. Donc, on paye plus souvent, plus régulièrement un abonnement, un abonnement à un service payant en ligne ou un payer un fournisseur à l'étranger. Donc, c'est un besoin qui vraiment se développe fortement, quels que soient les cas d'usage. Et donc, donc, en tant que banque, on a besoin d'accompagner ces besoins de la clientèle en proposant des nouveaux moyens de paiement innovants. Si on ne le fait pas en Europe, et en tout cas la Société Générale, au travers de Société Générale Forge, on a l'ambition d'être un acteur de référence européen dans le monde qui est le nôtre. Reprendre la main, c'est un impératif pour nos clients, c'est aussi un impératif pour nous en tant que banque.
Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul à l'avoir fait, à avoir fait ce choix ?
Alors, on a démarré très tôt. Oui. On a démarré presque 5 ans avant le reste du marché, ce qui était objectivement pionnier. On est encore pionnier, je pense. La compétition arrive, hein, on le voit, et c'est ça qui est une compétition. Maintenant, effectivement, notre rôle, et on y travaille régulièrement, c'est de maintenir une part de marché importante et de promouvoir ces usages et notre stablecoin convertible.
Vous avez raison, vous avez été pionnier et les concurrents ont mis du temps à s'intéresser, à s'organiser, à se réveiller, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là. On a un consortium qui est apparu il y a quelques mois, Uber, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, de banques européennes qui commencent à envisager effectivement cette solution aussi.
Oui, parce que il y avait un constat qui était tout simple, qu'on a souvent évoqué ici, c'est que mis à part justement quelques cas dont l'émission par Société Générale Forge, les 99,5% de l'encours des stablecoins sont libellés en dollars. Et donc c'est là où arrive la question de la souveraineté.
Oui.
Et j'aimerais qu'on parle d'ailleurs un peu plus de quel type de souveraineté, mais en fait la question qui s'est posée et la réponse Société Générale et d'autres était de dire mais on a besoin de stablecoins en Europe. Et c'est là le projet de certaines banques. Alors, certaines se regroupent en consortium, d'autres y vont toutes seules. Mais l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas laisser la place à des émetteurs non européens pour distribuer en Europe des stablecoins euros. Après, pourquoi faire ? C'est les différents sujets. Mais voilà, le constat, il est tout simple. C'est pour la défense de la souveraineté. Alors, c'est amusant parce que ce mot souveraineté, il est mis en avant un peu par chacun. Hein, je pense qu'on l'entendra aussi tout à l'heure. Mais moi, j'ai 3 définitions de la souveraineté, si vous voulez bien.
Allez-y.
Chère Sandra. Au plus exactement, à 3 niveaux différents comme les poupées russes. La première, c'est la souveraineté sur la monnaie, sur l'émission de la monnaie, sur la fabrication de la monnaie. Il y a aucun doute, hein, que ce soit la BCE, la Banque de France, l'Eurosystème, sont seuls souverains sur cette question, et personne ne leur dispute cette souveraineté de battre monnaie. Et on a de la chance en Europe, puisque beaucoup de pays ne fabriquent pas leur propre monnaie, et sous-traitent d'ailleurs à la Banque de France la fabrication des billets. La BCE est seule compétente, personne ne lui dénie cette compétence d'émettre la monnaie et de fabriquer la monnaie. Ensuite, il y a la souveraineté sur la distribution de la monnaie. La BCE ne distribue pas la monnaie. Ce sont les banques qui distribuent la monnaie sous forme scripturale ou sous forme de distributeurs de billets. Mais on ne va pas à la Banque de France retirer des billets, si vous voulez, ou demander un crédit. Donc la distribution d'un billet ou d'une monnaie, elle est faite par les intermédiaires financiers. Là aussi, il y a peu de personnes qui se disent qu'on a un risque de souveraineté sur cette distribution de billets. Les banques européennes sont là, sont puissantes, donc il n'y a pas de risque de souveraineté. Alors, où est le risque de souveraineté ? Sur la troisième forme de souveraineté, sur les infrastructures de paiement. Et c'est là où, en fait, on a ce constat fait par la BCE et par la Commission de dire, sur 27 États membres, il y en a 21, je crois, hein, qui dépendent exclusivement d'infrastructures de paiement non européennes. En clair, des 2 grands ou des 3 grands émetteurs américains d'infrastructures de paiement. Et c'est là où on touche à la question, mais qui est en charge de l'infrastructure de paiement ? Est-ce que c'est le secteur privé ou est-ce que c'est le secteur public ? Et je pense qu'on a une petite divergence avec la Banque de France pour considérer que la partie infrastructure de paiement, c'est du ressort du secteur privé. Et la particularité, c'est que l'euro numérique de détail, c'est un peu comme un produit vaisselle, si vous voulez. Il y a le double effet de laver et de rendre et de sentir bon. Ben, l'euro numérique, c'est à la fois de l'euro, mais c'est aussi un moyen de paiement. Et donc, ça touche à l'infrastructure de paiement.
Et on va voir tout de suite avec vous, Éric Lacourège, directeur général des moyens de paiement à la Banque de France, à quoi il sert cet euro numérique. Vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Marc, de cash numérique pour du stablecoin. Vous vous dites, finalement, l'euro numérique vise à transposer dans l'univers numérique certaines propriétés du cash également. Donc, vous avez à peu près la même définition de 2 produits complètement différents. Rappelez-nous ce que c'est et à quoi ça va servir. Mais ce que c'est, déjà.
Oui, alors, Sandra, c'est un sujet, je rebondis sur le propos qui vient d'être fait et qui est très, très, très clair et très intéressant. On empile plusieurs sujets très compliqués en réalité quand on parle de ça. Il y a d'abord le sujet de la monnaie centrale et de la monnaie commerciale, hein, c'est-à-dire la forme de la monnaie. Et on n'y pense pas tous les matins en se levant en se disant j'ai de la monnaie centrale, de la monnaie commerciale dans ma poche.
Non. Mais
c'est très important. Pourquoi ? Parce que les banques centrales, elles sont garantes de la confiance dans la monnaie et donc de la capacité qu'on offre à tous les acteurs, hein, SG Forge ou d'autres, à convertir en monnaie centrale quand ils le souhaitent. Leurs actifs. Et ça, c'est très important. Alors après, le deuxième sujet, c'est dire cette monnaie centrale, elle a vocation à circuler comment ? Il y a 50 ans, personne s'interrogeait. Tout le monde utilisait la monnaie centrale dans ses actes du quotidien. C'était les billets de banque. 90% des paiements en billets de banque il y a 50, 60 ans ou encore bien avant. Et bien entendu, la digitalisation s'est passée par là avec un recul de cette monnaie de la banque centrale dans la vie quotidienne au profit du digital, qu'on incarne tous aujourd'hui et qu'on connaît tous, bien sûr, dans tous nos actes de la vie quotidienne. Et donc, le débat aujourd'hui pour nous, il est de savoir comment on continue à assurer la confiance dans les paiements, dans l'économie et donc dans la capacité à convertir, si on veut, en monnaie centrale, dans un monde où la digitalisation tire les paiements vers des acteurs, parfois très fragmentés, très nombreux. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet très important parce qu'on est à la croisée de ce qu'on appelle dans notre jargon de technicien des paiements ou de banquiers centraux, de la monnaie de gros et la monnaie de détail.
Oui.
C'est pas le même sujet, tout à fait, même s'il y a des points de jonction. Quand on parle de l'activité d'SG Forge, on est dans la monnaie de gros, en tout cas dans la partie des paiements qui concerne les banques, l'interbancaire, les grandes entreprises. La monnaie de détail, c'est un deuxième sujet qui est les paiements du quotidien de tout le monde, de nous, hein. Je réponds sur l'euro numérique, je pourrais passer des heures et je sais qu'on n'a pas le temps. Mais l'euro numérique version retail, c'est-à-dire version grand public, le sujet c'est de dire effectivement, est-ce qu'une banque centrale, et je vais décevoir peut-être certains autour de cette table, a le droit d'émettre dans le digital une forme de monnaie centrale qui l'héritière, le cas de contrepartie des billets.
Ouais.
Et la réponse est oui. Alors bien sûr, pourquoi faire ? C'est un autre débat. Alors, je vais pas ouvrir là-dessus. Hein, mais
on va quand même en parler de l'utilité et à qui ça s'adresse. Hubert ?
Je ne sais pas si la question c'est est-ce qu'une banque centrale a le droit d'émettre une forme digitalisée de sa monnaie ? Moi aussi, je suis d'accord. Mais de sa monnaie. Or, l'euro numérique n'est pas qu'une monnaie. C'est une monnaie et une infrastructure de paiement. Mmh. C'est le point sur lequel j'ai terminé tout à l'heure. J'allais dire, là, le point de divergence, c'est sur le rôle d'une banque centrale par rapport au secteur privé. On a souvent parlé ensemble, Sandra ici, de Wiro ou autre, etc. Ouais. C'est-à-dire d'acteurs privés qui répondent avec une infrastructure de paiement privée aux soucis exprimés clairement par la BCE et par la Commission sur la souveraineté de l'infrastructure de paiement. Et en fait, quand on regarde, pardon, hein, mais c'est mon côté un peu avocat, les traités de l'Union européenne, on regarde ce qui se passe pour la Banque centrale, on ne nous dit pas qu'elle est en charge des systèmes et des moyens de paiement. Elle nous dit qu'elle doit assurer le fonctionnement. Assurer le fonctionnement, c'est pas être acteur. En fait, on a une banque centrale qui est joueur et arbitre. Et c'est ça qui est gênant.
Ah.
Alors bon.
Eric.
C'est un débat très intéressant qui peut être très long. Notre sujet dans la zone euro, 350 millions d'habitants, 12 000 milliards de PIB d'euros, c'est qu'on n'a pas, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, on n'a pas d'infrastructure de paiement grand public qui couvre cette zone euro. C'est 21 pays. On n'en a pas. Alors, on a des initiatives très importantes qu'on salue et qu'on soutient. Wiro, on en parlait, qui sont aujourd'hui dans 5 pays. 5 pays importants, Benelux, France, Allemagne, 60% à peu près des transactions au point de vente, hein, donc c'est quand même déjà important,
ouais.
Mais ce n'est pas 21. Et donc, le sujet, c'est que, est-ce qu'on reste dans cette fragmentation et donc dans cette souveraineté très limitée ? Elle va peut-être s'étendre, on espère que Wiro va s'étendre, ou est-ce qu'on offre à minima une infrastructure transverse et qui s'adresse à ces 21 pays ? Et c'est ça l'euro numérique. Alors, on peut effectivement débattre sur l'importance, l'utilité, la légitimité de l'eurosystème à financer cette infrastructure. Mais c'est ça ou ne pas en avoir aujourd'hui.
Est-ce que le fait d'être en France aujourd'hui, avec un système monétaire qui est très moderne, qui a, comme vous l'avez dit, beaucoup d'initiatives sur les moyens de paiement, ce genre de choses, est finalement l'endroit où on peut le mieux défendre cet euro numérique ? Parce que vous le dites, ça va être très utile pour la globalité de l'Europe, pour certains pays probablement auxquels il manque ce genre de d'initiative. Mais est-ce que c'est finalement ici en France que justement le citoyen va voir une différence sur sa façon de d'utiliser les moyens de paiement? Est-ce que finalement on est le pays le plus approprié pour l'expliquer?
C'est une très très bonne question et effectivement on est dans une situation plus délicate en France, hein, par rapport au reste, en tout cas beaucoup d'autres pays d'Europe, par rapport à la base installée. C'est exactement ce que vous disiez. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en France en termes de souveraineté? On a déjà beaucoup de choses. Je mets les billets à part, hein, mais c'est déjà un point de souveraineté important. Mais on a bien sûr carte bancaire. Carte bancaire, c'est notre champion national des paiements aujourd'hui. Hein, plus de 70% des paiements sont faits dans le quotidien avec carte bancaire. Mmh. C'est déjà un outil de souveraineté fantastique et on œuvre à le renforcer. Déjà aujourd'hui, pour la partie paiement personne à personne, mais demain, pour les autres paiements commerçants Internet, on va avoir Wiro. On a Wiro. Deuxième infrastructure souveraine, hein, donc très très bien. Et on annonce après-demain l'euro numérique. Aujourd'hui, que dire par rapport à ça? Ce qui est très important, c'est que le vrai débat que nous avons dans la zone euro et à la BCE, dans l'eurosystème, c'est qu'il faut quand même traiter le sujet pour 21 pays et 350 millions de citoyens. Et on ne peut pas dire, la France, ça va très bien, merci, on se retire et on laisse. On a une monnaie unique, il faut des solutions harmonisées, uniques. Mmh. Et c'est ça la logique de l'euro numérique. Je rajoute un point très important, l'euro digital grand public. Dans une zone aussi riche, aussi importante que la zone euro, même pour l'économie française, il y a de la place pour tout le monde. Et on laisse le choix aussi au consommateur final pour son moyen de paiement ou ses moyens de paiement. Mmh. C'est ça, cette logique est importante.
Jean-Marc.
Oui, tout à fait. Je rebondis sur le point, effectivement. Et nous aussi, alors la place de la monnaie, le rôle des banques centrales, c'est évidemment un peu loin de nos considérations. Nous, on est là pour servir des clients et leur proposer des solutions innovantes. Et effectivement, il y a une diversité de solutions de paiement qui est en train d'émerger. Ce qu'on est en train d'observer, malgré tout, c'est que le stablecoin, en tant que nouvel instrument de paiement, de règlement livraison, est en train de s'installer à peu près partout dans le monde. Nous, la zone géographique minimum qu'on regarde, c'est l'Europe. Évidemment, les paiements, c'est un sujet global par nature. Les États-Unis, c'est vrai, ont pris une posture qui est extrêmement claire, qui est de ne pas émettre de monnaie numérique de banque centrale. Donc, on sait que le marché américain, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises ou les institutions financières, est en train de migrer à vitesse grand V vers des paiements en stablecoin. Donc, c'est une nécessité impérieuse pour tout le monde d'être en mesure de traiter cet actif-là. Et on constate également, pour les premiers utilisateurs qui sont dans les systèmes de crypto-monnaies, hein, aujourd'hui, la plupart des flux en stablecoin sont de ce côté-là. Là aussi, il y a un besoin impérieux d'utiliser des stablecoins robustes. Il y a eu des expériences hasardeuses par le passé. Je crois que le fait de proposer un stablecoin libellé Société Générale, avec la robustesse d'une banque derrière, c'est aussi de nature à rassurer la clientèle dans cet écosystème.
Vous soulevez un point, il y a plein de pays, Eric, qui ont abandonné la monnaie numérique. Pourquoi nous, en Europe, on tient absolument à continuer ce projet? Alors Hubert a souvent souligné le rôle pour l'euro numérique de gros, par exemple.
Il y a consensus.
Voilà, là, il y a une vraie utilité. Pourquoi nous, on persiste dans ce projet d'euro numérique?
Je vais vous donner un exemple très intéressant et très, très parlant. Le cas de l'Inde. L'Inde, il y a eu un partenariat public-privé, il y a un certain nombre d'années, banque centrale, autorité et les banques, l'ensemble des banques indiennes, pour mettre en place un moyen de paiement en monnaie commerciale, sur téléphone portable, instant de paiement, qui s'appelle UPI, et qui est aujourd'hui un succès monumental dans toute l'Inde. On n'a jamais réussi à le faire dans le cadre de la zone euro, hein, de l'Union européenne. Ces débats-là, je n'y ai pas participé dans le passé, mais en tout cas, nous amène aujourd'hui au fait qu'on a une fragmentation dans les paiements. Oui. Hubert le disait de manière très, 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 très claire et très juste, on a une domination étrangère qui aujourd'hui est sur les infrastructures de paiement traditionnelles, cartes, demain sur les stablecoins. Mmh. Notre risque, c'est quoi? C'est que dans nos paiements du quotidien, demain, nous payons en stablecoin dollars.
Hein,
et donc là, on tire un problème de souveraineté de la monnaie, hein, encore plus.
Jean-Marc espère le contraire.
Nous travaillons tous au fait que ça n'arrive pas. C'est bien ça le sujet. Et donc, aujourd'hui, fort de ce constat, et encore, il n'est pas exclusif, hein, par rapport aux initiatives privées, mais On est obligé de s'orienter vers une infrastructure publique qui serve l'ensemble de la zone parce que c'est le seul commun dénominateur pour arriver à assurer des paiements souverains dans le futur avec une certitude en tout cas de délivrance d'ici la fin de la décennie 2029.
Hubert.
Oui, quelques petits commentaires pour continuer le débat. Il y a Wiro, il y a Europa aussi. Donc quand on additionne Wiro et Europa, c'est déjà en termes de population, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est une part importante de la population européenne qui est couverte par l'initiative privée. Moi, ce qui me gêne dans l'euro numérique, ce n'est pas l'euro numérique, c'est le calendrier de l'euro numérique, en fait. C'est son calendrier 2027-2029, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas le temps au secteur privé de montrer qu'il peut réussir avec ses initiatives Europa et initiative Wiro. Si on avait, et ça a été refusé au Parlement par un amendement, un euro numérique qui était de dire « Moi, Banque Centrale Européenne, j'appuie sur le bouton à partir du moment où, sur la base d'un certain nombre de critères précis, j'estime que le secteur privé n'a pas rempli son rôle tel que la Commission lui a demandé, et que donc on reste toujours en 2029 ou je ne sais pas quand, avec une domination et puis des pays, etc., j'actionne mon bouton et j'émets de l'euro numérique. Et en fait, on n'est pas dans une optionnalité. C'est on de dire, on va rentrer dans une concurrence entre, j'ose à peine dire le mot, monnaie privée, monnaie publique. Mm-hmm. Monnaie privée, les stablecoins, monnaie privée, publique, l'euro. Et en fait, là où il devrait y avoir séquencement. Et c'est ça qui me gêne, c'est le calendrier.
Est-ce que ça se résume à ça, le privé face au public, Jean-Marc?
Mais je voulais juste réagir. Je trouve le ton est un peu défensif. Nous, chez Société Générale Forge, on est offensif. Et comme dans beaucoup d'autres secteurs, on oublie souvent l'Europe est en avance sur ces sujets-là. La réglementation européenne est en avance sur la réglementation d'autres zones géographiques. La réglementation européenne, pour une fois, est claire et lisible. Il faut le souligner aussi. On a eu l'occasion de le dire. Le législateur européen a fait un très bon travail. Il faut l'utiliser. Le marché européen sur ces systèmes de paiement électroniques, stablecoin, est le plus mature et le plus large aujourd'hui au monde. Et désolé de le dire, mais on a un acteur, Société Générale Forge, qui est un des leaders mondiaux de ce domaine. Notre ambition, c'est d'être un acteur mondial de référence, européen, ancré en Europe, qui va chercher des parts de marché au-delà de l'Europe.
Serez-vous assez suivi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure? Les stablecoins sont libellés à 98-99% en dollars. Serez-vous assez suivi? Est-ce que si tout le monde s'y met, on aura quand même une chance, de pouvoir contrer les États-Unis?
Aujourd'hui, la dynamique sur les stablecoins euros est assez forte. Oui. Plus forte en particulier si on regarde la clientèle européenne, et plus forte que la dynamique européenne. Les stablecoins collectent en net, en marge, mais en relatif, les stablecoins euros collectent plus que les stablecoins dollars en Europe.
Hubert.
En fait, là on est à la marge entre l'euro numérique de détail et de gros. Le cas d'usage le plus pertinent pour une monnaie numérique, qu'elle soit privée ou publique, ça va être les entreprises. Parce que payer sa boulangère en stablecoin dollar, j'y crois pas une seconde. Même en stablecoin euro, j'y crois quasiment pas. Donc le sujet, il est vraiment que vont faire les entreprises. Et quand on voit les évolutions, ne serait-ce qu'en France, des entreprises dans leur gestion de leur trésorerie, la gestion de la trésorerie avec des stablecoins, j'ai pas dit de la monnaie numérique pour le coup de banque centrale, c'est une révolution. Donc demain, quand les grandes entreprises du CAC 40 utiliseront le stablecoin de Société Générale ou d'autres, là on va avoir des volumes aussi bien en émission qu'en transaction qui vont exploser.
J'ai bien noté aussi votre remarque sur le calendrier et sur laisser le temps aux technologies de se mettre en place d'un côté comme de l'autre. Pour terminer, il nous reste 2 minutes 30. À quoi va ressembler la finance justement dans 5 ans? Est-ce que ces deux mondes vont continuer à se regarder en chien de faïence, l'euro numérique d'un côté, le développement des stablecoins de l'autre? Quelle est votre vision, Eric?
Ma vision, c'est que on va vers, c'est une très bonne nouvelle, une Europe beaucoup plus souveraine dans ses paiements. On y œuvre tous à notre niveau. Donc ça, c'est une première chose très importante. Ensuite, l'autre point très important, c'est que il faut qu'on développe des outils en stablecoin euro qui correspondent et qui traitent les besoins de nos acteurs européens, en particulier les entreprises. Grand enjeu. On fera tout pour pousser ça et pour aider. Il faut qu'on ait une infrastructure de paiement, y compris de gros, qui permettent la fluidité maximale de l'ensemble des outils qu'on va développer. Et ça, c'est des projets, on n'en a pas parlé, Pontes, Sapia, qu'on est en train de, côté Eurosystème, pour le gros, de développer. Et finalement, dernier point, et j'en resterai là, notre ambition, nous, sur le retail, c'est-à-dire sur l'euro numérique courant, les particuliers, si ça arrive dans les téléphones portables à la fin de la décennie, c'est que nous ayons une interface la plus simple possible et que, par exemple, nous ayons dans le futur wallet Wero l'option de payer en euro digital ou en Wero, par exemple, pour donner le choix aux gens. Hein. Et puis après, chacun ferait ses choix.
Jean-Marc.
Tout à fait aligné. Je pense que les deux vont arriver. On aura de la monnaie numérique de banque centrale, de gros et de retail. On aura des stablecoins. De toute façon, encore une fois, c'est un marché qui se numérise à grande vitesse. Juste pour compléter, je dirais, à la fin, tout ceci, c'est un débat de professionnels. La vraie adoption, de toute façon, arrivera à partir du moment où tout ceci sera transparent pour le client, qu'il soit retail ou entreprise. Donc, c'est à nous, banque commerciale, au-delà de la Société Générale, d'intégrer ces nouveaux moyens de paiement numérique de sorte que l'expérience utilisateur reste simple. C'est le backstage, c'est le back-office derrière qui intégrera ces nouveaux moyens de paiement pour améliorer l'expérience du client final.
Il y aura peut-être aussi besoin d'une simplification, histoire que justement le commun des mortels puisse un petit peu mieux comprendre ce que c'est qu'un moyen de paiement, ce que c'est qu'une infrastructure et quelle est finalement la meilleure solution pour chaque usage. Mais Hubert, il va falloir recommencer ce débat une autre journée, une
avec les mêmes.
Exactement, une deuxième émission. On sera obligé de le faire. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Jean-Marc Stenger, directeur général Société Générale Forge. Éric Lacourèche, directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. Hubert de Vauplan, partner chez Morgan Lewis. Merci d'être venu dans BFM Crypto, le débat. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.